Dans le cadre du Festival international des métiers de montagne, qui est une biennale qui se tient donc une année sur deux à Chambéry et l'année alternative dans un autre pays d'Europe, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laurence Mazinck. Anne-Laurence Mazinck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du projet européen Euralps pour le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Alors déjà, rien que ce titre, ça mérite explication. Qu'est-ce que le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie déjà?
En deux mots ou en dix mots?
En cinq mots.
Alors le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, c'est une association qui est située sur le département éponyme et qui vise à gérer, mais également à protéger, puis aussi à partager, à faire connaître les espaces naturels. Donc le Conservatoire, il est gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie. Dans le département, il y en a 9. Donc il est chargé de gérer les milieux, de les mettre en valeur. Et puis on a aussi deux autres volets à signaler. D'abord, des suivis scientifiques qu'on effectue en réserve naturelle. On suit par exemple les glaciers. On est aussi l'opérateur de la réintroduction d'un rapace qui est le gypaète barbu. Et puis, en dehors des suivis scientifiques, on a tout un volet éducation à l'environnement. On a des animateurs, des guides nature qui emmènent alors tantôt les scolaires, mais aussi le grand public à la découverte de ce que sont les milieux naturels en Haute-Savoie, en particulier les milieux de montagne.
Quel est le rapport entre ce que vous appelez espace naturel, réserve naturelle, vous avez employé un deuxième terme, et les parcs aussi?
Alors, c'est essentiellement des questions de statut. Quand je parle d'espace naturel, c'est toute la nature, y compris la nature à proximité des villes. Et la différence essentielle avec les réserves et les parcs, c'est des questions de statut. Une réserve naturelle est créée par décret du ministère de l'Environnement et cela implique qu'une réglementation se met en place sur ce périmètre. Hein, souvent, dans les réserves naturelles, c'est interdit d'emmener son chien, c'est interdit de cueillir des fleurs, c'est interdit de faire du feu ou de camper. Voilà. Et d'ailleurs, la réserve naturelle, c'est le statut de protection le plus fort en France et qui est plus fort que les parcs qui, eux, sont d'autres types en fait, d'espaces naturels protégés où la réglementation est un peu moins forte.
D'accord, moins de contraintes. On nous a parlé du gibet. Si j'ai bien compris, ces réserves servent à protéger de la faune, mais aussi de la flore.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes espèces qui sont protégées ou qui sont menacées et donc protégées dans ces... pour nous donner quelques exemples?
Alors la question est presque, j'ai envie de dire, presque plus compliquée que ça parce que
on cherche,
voilà, c'est ça, c'est qu'une espèce, on ne la prend jamais toute seule à part, elle fait partie d'un écosystème, elle vit dans un habitat qui lui convient et le travail du conservatoire, j'ai envie de dire, il est d'avoir un peu une vision globale et de faire en sorte que les habitats soient protégés pour que les espèces, mais aussi leur cortège qui va avec, pour que la biodiversité dans son ensemble puisse perdurer dans un bon état.
Alors le projet Euralps, c'est donc un projet européen. Est-ce que vous travaillez pour les espaces, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie? Ça veut dire qu'il est en lien avec d'autres conservatoires dans d'autres pays? Et quel espace géographique ça concerne et quels pays sont concernés par ce projet?
Alors, le projet européen Euralps, en effet, il a une vocation européenne. Donc, il est implanté dans 5 pays de l'arc alpin, la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la Slovénie. Et dans chacun de ces pays, en effet, le projet repose alors, soit sur des gestionnaires d'espaces naturels comme nous, mais il y aura aussi, par exemple, en Allemagne, ce sont des parcs. En Autriche aussi, ce sont des parcs naturels. Bref, dans chaque pays, il y a un acteur de la conservation, de la nature, et puis en lien aussi avec des structures qui font de l'animation, de la sensibilisation à la nature. Et pour citer par exemple les 4 partenaires français du projet, il y a donc le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, il y a une structure qui s'appelle Educalp, qui existe depuis une bonne dizaine d'années et qui est une structure qui vise vraiment exclusivement à développer l'éducation en montagne. Il y a Alparc. Alparc est une association basée à Chambéry, ici même, qui vise à mettre en réseau les espaces protégés de l'arc alpin. Et puis enfin, 4e partenaire français, le lycée Rénac, qui est le lycée agricole de la Motte-Servolex.
D'accord. Ce projet européen donc, qui regroupe France, Italie, Autriche, Allemagne et Slovénie, le dénominateur commun, la force commune, c'est les Alpes qui sont un écosystème particulier.
Oui, exactement. C'est exactement ça. Le point commun entre nous tous, c'est les Alpes. C'est ce territoire des Alpes avec ses caractéristiques, alors aussi bien physiques que d'un point de vue du patrimoine naturel, mais aussi, je le disais tout à l'heure, d'un point de vue de la culture alpine. On a beaucoup de points communs. Et ensemble, on souhaite développer un modèle d'éducation alpine. C'est-à-dire qu'on souhaite que demain, les jeunes des territoires de montagne soient connectés davantage à leur territoire.
On va revenir là-dessus, mais dernière question sur cette homogénéité du territoire alpin à travers ces 5 pays d'Europe. Est-ce que vous avez constaté une culture commune de la pratique de cet espace naturel que sont les Alpes?
Alors, bien sûr qu'il y a une culture commune, même si, évidemment, localement, il y a toujours des petites différences, des petites particularités, mais bien sûr qu'il y a une culture commune. Bien sûr que les activités qui se font en montagne, l'identité, finalement, alpine a une vraie identité avec une forme d'homogénéité. Les traditions pastorales, les traditions culinaires, les traditions... même la nature en elle-même a beaucoup de points communs. On retrouve à peu près les mêmes espaces. On parlait tout à l'heure de la biodiversité. Exactement. Les espèces ne connaissent pas les frontières et la biodiversité qu'on trouve dans les Alpes françaises ressemble peu ou prou à la biodiversité qu'on va trouver en Slovénie. On aura les mêmes espèces et par ce fait-là, effectivement, je le redis, mais il y a une forme d'homogénéité de l'identité alpine.
Alors revenons à cette éducation, ce programme d'éducation, de sensibilisation à la montagne. Quels sont ses objectifs et le public vers lequel il est dirigé?
Alors le public, c'est les jeunes. Et les jeunes, selon l'Union européenne, l'âge des jeunes va de 6 à 30 ans. Donc ça fait un éventail assez large. Du coup, dans le projet, on a plutôt cherché à se concentrer sur un échantillon plutôt d'ados, j'ai envie de dire, plutôt de 14 à 20 ans. Donc on a ciblé a priori un public qui, en tout cas en France, est au collège. Et l'idée avec ce public, c'est de développer une éducation spécifique à la montagne. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer vraiment sur les relations qui existent entre les habitants des territoires de montagne et la montagne.
Oui, dans leur milieu, hein, c'est ça?
Voilà, on va vraiment s'intéresser aux relations entre les habitants et leur milieu, c'est ça. D'accord. Que je voulais dire. Et du coup...
Donc pour approfondir leur connaissance du milieu même dans lequel ils habitent.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes qui habitent sur les territoires de montagne s'approprient et ne soient pas déracinés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les Alpes, il y a des campagnes, il y a des villes et les jeunes qu'ils habitent en campagne ou à la ville connaissent pas forcément les milieux qui les entourent. Des jeunes de Grenoble peuvent avoir sous le nez la montagne tous les jours sans ne jamais y mettre les pieds. Mais ça, c'est vrai aussi, on l'a constaté, pour des territoires ruraux qui sont vraiment implantés en montagne. Des petits villages ou des petites villes de montagne certains jeunes peuvent ne jamais aller en montagne. Et du coup, l'idée de ce projet, c'est vraiment de développer des liens, de faire en sorte que les jeunes aillent sur le terrain, que les jeunes aillent dans la nature, qu'ils exercent leur sens de l'observation, qu'ils apprennent des choses pour que demain, ils soient en capacité d'avoir une forme de résilience face à tous les changements que connaissent aujourd'hui les territoires de montagne.
Pour éventuellement y pratiquer, y résider d'abord et puis ensuite y pratiquer.
Exactement.
Des activités, notamment économiques.
Exactement. L'idée, c'est aussi effectivement de leur ouvrir la porte sur toutes les activités, tous les métiers qu'on peut pratiquer en montagne. Il y a vraiment une diversité et une richesse dont les jeunes n'ont pas forcément connaissance. Et l'idée du projet, c'est effectivement de mettre en lien l'école au sens institutionnel du terme avec l'ensemble des acteurs de la montagne, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le secteur du tourisme, dans la sécurité. Bref, il y a vraiment multitude d'approches de la montagne et l'idée du projet, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient plus au contact du terrain et de la réalité de ces métiers.
Alors quels sont justement les moyens et les outils dont vous disposez pour apporter cette connaissance à ces jeunes?
Alors jusqu'à présent, le projet il a constitué à mettre en place des expérimentations sur la base d'un duo constitué d'un établissement scolaire et d'un espace protégé. On a fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle des pilot sites, des sites pilotes qui mettent en relation donc un collège et un espace protégé et de faire des projets pour amener ces jeunes en montagne. Alors les projets qui ont été testés l'année dernière, donc il y en a eu un par exemple sur la réserve naturelle de Sixte qui a été mis en place par le Conservatoire d'espaces naturels avec le collège de Samoin. Et puis plus près de Chambéry, plus près d'ici, il y a le lycée agricole de Rénac, la Motte Servolex, qui a beaucoup emmené ses élèves sur le parc naturel des Bauges pour faire un certain nombre d'activités. Les jeunes se sont livrés notamment par exemple à des exercices ils ont produit des petites vidéos pour montrer un peu qu'est-ce que c'est que leur montagne, qu'est-ce que c'est que sortir en montagne. Et puis sur la réserve naturelle de Sixte que j'évoquais, le projet a consisté à faire un parcours numérique, c'est-à-dire que les collégiens ont travaillé sur la question de savoir comment ils se représentent leur territoire et comment ils ont envie de le présenter à d'autres collégiens. Et avec cette question de départ, ils ont élaboré un parcours, ce qu'on appelle un parcours numérique, à base de QR code, c'est-à-dire on télécharge une appli et puis on se balade dans le cirque du fer, qui est dans le cirque du fer à cheval, qui est un lieu assez touristique qui se prête bien à la découverte parce qu'il n'y a pas du tout pour le coup de risque lié à la montagne.
Ce qu'on appelle les visites augmentées un petit peu, comme c'est ça.
Voilà, c'est un peu ça. Avec un aspect un peu ludique, un peu interactif, mais la particularité c'est que c'est vraiment ces jeunes qui ont exprimé le regard qui ils avaient sur leur territoire et ce qu'ils avaient envie de faire découvrir aux autres. Voilà, donc ça c'est des expérimentations qui ont été menées sur l'année, qui feront l'objet d'une évaluation et puis qui nourriront aussi une sorte de modèle d'éducation alpine pour faire en sorte qu'on puisse proposer à tous les établissements qui le souhaitent, non seulement proposer mais faciliter l'organisation de sorties sur le terrain.
L'objectif final, un petit peu, c'est de faire face à l'évolution, aux mutations dans les usages de ces territoires.
Alors, je dirais que l'objectif final pour nous, c'est de faire en sorte que sur les territoires de montagne, à l'échelle des 5 pays, la question de la montagne soit complètement intégrée dans les enseignements dispensés par les établissements. On l'a dit à peu près pour les enfants de 14 à 20 ans. C'est-à-dire que ça fasse complètement partie des approches de manière transversale. C'est-à-dire que quand on va parler de physique, de biologie, de littérature, et bien que cette approche de la montagne soit intégrée dès le départ dans les enseignements. Ça serait vraiment le but final du projet.
Vous nous avez parlé d'une phase expérimentale. Donc vous n'en êtes pas encore aux évaluations, mais est-ce que tout de même vous avez déjà sur le terrain des retours, ou ici au FIM, Festival International des Métiers de Montagne, puisque vous êtes venu communiquer ce matin sur cette question-là, est-ce que déjà vous avez des retours des différents des résidents, des territoires d'abord, et puis des différents acteurs aussi, institutionnels, associatifs?
Alors ce matin c'était extrêmement intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de... Donc on a présenté un peu les résultats du projet à son état d'avancement actuel, et ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup d'échanges et beaucoup de débats. On a vu que c'était vraiment un sujet qui intéressait, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont vraiment le souhait de développer cette thématique dans leurs écoles et qui se heurtent à un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles évidemment le manque de moyens financiers. C'est ce qui est un peu ressorti de la réunion ce matin, c'est que ça coûte cher finalement d'emmener les élèves en montagne. Souvent il faut louer un bus, s'il y a de l'hébergement, s'il y a une nuitée en montagne, tout de suite on est sur des montants.
On connaît aussi la problématique de sécurité qui pèse
beaucoup
sur les enseignants.
Voilà, exactement. Ouais. Et du coup les enseignants sont assez frileux d'emmener les élèves. Et je pense que il y avait une vraie envie, on a senti une véritable envie de développer ça, et en même temps beaucoup de personnel, alors que ce soit des enseignants, des animateurs, des accompagnateurs qui étaient là ce matin, qui se heurtent en effet à des blocages. Et ce qui a aussi été beaucoup dit ce matin, c'était que finalement on comptait assez sur les élus et sur les collectivités territoriales pour accompagner des dispositifs en faveur, enfin qui qui permettent une meilleure accessibilité des jeunes à la montagne. Il y avait notamment un représentant de Grenoble Métropole qui parlait des petits-enfants de la Villeneuve, hein, qui, pour le coup, sont assez peu...
problématique ancienne, voilà. Hein, parce que quand on est à Villeneuve, on a effectivement une vue magnifique sur le massif de Belledonne, et il est de notoriété publique que c'est juste la vue, mais qu'on y va rarement. Hein.
Voilà, c'est exactement ce qu'il disait, c'est qu'il y a une forme quand même d'inégalité sociale là aussi. Si les parents des enfants pratiquent des activités de montagne, alors...
ils les emmènent naturellement.
Exactement, mmh. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles et beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne vont jamais en montagne, quand bien même ils habitent au cœur des Alpes.
Merci. Pour conclure sur cette question, est-ce que vous pensez que ce modèle de sensibilisation au milieu naturel, il peut être servir de modèle, être applicable dans d'autres milieux que le milieu de montagne, par exemple? Je sais pas, je pense aux découvertes du littoral, aux découvertes de... etc.
Ah, j'avais pas pensé à cette possibilité, mais j'ai envie de répondre, bien sûr, pourquoi pas. C'est vrai que ce qu'on a évoqué aussi ce matin au niveau de l'éducation nationale en France, c'est le centralisme. Hein. On se heurte quand même à une forme de centralisation. Et,
les programmes sont concoctés
exactement.
Au ministère.
Et, voilà, et c'est difficile de faire ressortir les spécificités locales. Voilà, l'éducation à la montagne, pour reprendre cet exemple, il est beaucoup aujourd'hui dépendant du volontarisme des équipes enseignantes et des projets d'établissement, mais ça sera extrêmement difficile d'avoir une approche de la montagne par les programmes, hein, étant donné la façon dont est structurée l'éducation nationale en France. Et je pense que voilà, cette question de la montagne, elle vaut tout à fait pour d'autres thématiques comme la mer ou les volcans ou que sais-je encore.
Anne-Laurence Mazinck, responsable du projet européen Euralps pour le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, merci beaucoup.
Merci.